Deuxième question, disent les anges, est-ce que le monde entier a entendu parler de toi? Et non, réplique Jésus. Alors, quel est ton plan alors, disent les anges à Jésus? Et Jésus a cette réponse, enfin c'est moi qui le dis, hein, c'est pas écrit, mais je pense, j'ai donné à 12 hommes et à quelques autres personnes la responsabilité d'apporter le message au peuple du monde. Ça, on retrouve bien Acte 1.8 où il dit « Vous recevrez de la puissance du Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mouchard en fait partie. Puis les anges regardent, le regardent et puis posent encore une question. C'est bien, mais est-ce que tu as un plan B si celui-là ne marche pas? Et Jésus dit non, il n'y a pas de plan B. Alors j'ai choisi comme base à ce message un texte qu'on retrouve dans Matthieu. À la fin de l'évangile de Matthieu, du verset 16 au verset 20. Je vais vous le lire, mais si vous avez des Bibles, vous pouvez chercher. Matthieu 28, 16 à 20. Tout le monde y est. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On va essayer de reprendre ces quelques versets, surtout les trois derniers qui m'ont interpellé. Les paroles de Jésus pourraient être appelées la grande mission ou la mission universelle. Mais c'est une mission donnée aux disciples, mais donnée aussi à toute l'Église, donc à nous aujourd'hui. Ces paroles s'adressent aussi à nous. Ce sont des ordres que Jésus a donnés à son Église avant qu'il ne retourne au ciel. Jésus a accompli sa mission sur la terre, il l'a dit, enfin je l'ai imaginé. Et maintenant, il donne une mission à ceux qui restent, ses disciples, et à tous ceux qui vont suivre les disciples dans les années, les décades, les siècles à venir. Donc à nous. Ces paroles sont toujours aussi valables. Il y a des choses que Jésus veut que son Église fasse. J'ai dit premièrement l'évangélisation, et certains ici, beaucoup, savent que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. À partir du verset 19, il dit « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est la première partie de la mission universelle de l'Église. Et j'aimerais qu'on examine ensemble ce que dit Jésus. Quand il dit « Allez, allez donc », »,« Allez » c'est un verbe qui veut dire se mettre en mouvement, marcher, se diriger, avancer. C'est un mot simple, mais c'est un mot qui peut provoquer l'horreur chez beaucoup de chrétiens. Dieu ne m'appelle pas à être missionnaire, hein. Je ne veux pas aller dans un pays chaud, je transpire trop, je ne supporte pas la chaleur. Puis il ne me demande pas d'aller dans un pays froid, je ne supporte pas le froid. Puis je ne parle pas très bien le chinois, ou un autre dialecte, ouh là là! Mais je vais vous rassurer tout de suite, hein, faut pas avoir peur. Ce n'est pas ce que Jésus demande. Il ne demande pas que tout le monde quitte son pays pour aller à l'autre bout du monde. Quoique voyager, parfois, c'est joli, hein, il y a de beaux coins. Quand Jésus dit « aller », il s'est servi d'une forme, à mon avis, du verbe qui peut être aussi... On pourrait le traduire autrement. Ça pourrait être traduit « en allant ». Bien sûr qu'il donne un ordre, c'est vrai. Mais le contexte, pour moi, c'est notre vie tout entière. En allant dans tout ce que nous faisons, où que nous soyons, où que ce soit, où que nous, ce soit que nous habitions, où que ce soit que nous travaillons, Jésus nous dit, engagez-vous à faire des disciples. Quand on entend ça, moi je crois que tout de suite la tension doit diminuer. Ouf, on n'est pas obligé de partir loin. On peut rester en France. Oui, mais l'ordre de Jésus demeure le même. Qu'on soit en France, à Mouchard, ou ailleurs à l'autre bout du monde. Bien que le monde ait besoin de missionnaires prêts à quitter leur pays, c'est vrai. Mais le monde a besoin de chrétiens qui restent là où ils sont et proclament Jésus là où ils sont. Vous savez, je crois qu'il est possible d'aller très loin tout en restant chez soi. Ça paraît contraire. En point B, je dirais, faites de toutes les nations, c'est ce que la parole dit. Dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, la révélation de Dieu était pour les Juifs, descendants d'Abraham et d'Isaac. Mais quand Jésus donne la mission universelle, il prolonge cette révélation faite à Israël, mais il la prolonge au monde entier. La bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. L'attente de Jésus, c'est que son Église va se propager partout dans le monde et qu'en allant, elle va faire des disciples. L'histoire de l'Église, on la trouve dans les Actes, la première Église nous montre le début de cette propagation. Les 12 premiers chapitres du livre, on suit l'apôtre Pierre, qui apporte l'Évangile aussi aux païens, aux non-juifs, qui auparavant étaient en dehors de l'Alliance de Dieu. La deuxième partie des Actes suit les voyages de l'apôtre Paul, qui a apporté le message de l'Évangile à une grande partie de l'Empire romain, et même au cœur de l'Empire romain, à Rome. Au début, au début du deuxième siècle, environ 100 ans après Jésus-Christ, il y avait environ 46 églises dans 16 régions autour de la Méditerranée. Évidemment, il y a plus d'églises aujourd'hui. Hein. J'ai regardé en France métropolitaine, au 2 octobre 2019, c'est précis, hein, il y a 2510 églises évangéliques renseignées sur l'annuaire électronique, toutes sensibilités confondues. 2510 églises qui normalement font des disciples. Mais qu'est-ce qu'un disciple ? La parole continue, des disciples. Quand Jésus a donné ses ordres, il n'a pas dit « faites des membres de l'Église » ou « faites des étudiants de la parole » ou « faites des ouvriers pour beaucoup d'activités ». Un disciple, ça fait tout ça. Il devient normalement membre d'une Église. Il devient normalement étudiant de la parole, il travaille normalement dans l'Église. Mais un disciple, c'est premièrement un disciple. Et c'est là que je fais la différence. Nous nous engageons sur un terrain dangereux, à mon avis, et mouvant, si nous croyons que nous cherchons simplement des gens pour augmenter le nombre de personnes dans l'Église. Quand quelqu'un devient chrétien, quand il devient disciple, ce n'est pas pour être mis à sa place dans le programme de l'Église. Une pierre parmi toutes les autres pierres. Un disciple suit une personne. Il se consacre à une personne. Il obéit à une personne. Jésus. Il y a bien sûr des choses à faire, mais toujours dans le contexte d'une relation avec Jésus. Une relation passionnée qui nous amène à vouloir servir notre Sauveur. Quand nous parlerons de la formation un tout petit peu plus loin, j'ai mis un point là-dessus, nous allons voir d'un peu plus près ce que ça veut dire qu'être un disciple. Mais pour l'instant, retenons simplement l'idée qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Alors, il y a un point, les baptisants. Alors, ce matin, je ne vais pas entrer et examiner ce point que Jésus dit au sujet du baptême aujourd'hui. À mon avis, c'est un vaste sujet qui peut entraîner des débats à lui tout seul. Je dirais simplement que le baptême fait partie de ce que Jésus commande. Comment et quand on le fait, ça c'est une autre question. Pour faire des disciples, alors il faut que nous allions dans le monde où se trouvent ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais j'ai dit, le monde, ça peut être où on habite, hein, ça fait partie du monde. Malheureusement, souvent, dans nos églises, on insiste trop souvent que le monde doit venir à nous pour entendre la bonne nouvelle du salut de Jésus. Trop souvent, dans les églises, on n'est pas prêt à aller. Inviter les gens chez nous, c'est plus facile. Parce que ceux qui viennent, ils sont peut-être moins à l'aise. Nous, on peut penser, on est chez nous. Est-ce que cela veut dire que nous sommes contre des événements qu'on organise? Pas du tout. Nous pouvons inviter notre famille, nos amis. Mais ces manifestations ne servent pas à grand-chose si nous ne sommes pas déjà occupés à proclamer Jésus. La grande mission, c'est une mission intentionnée. C'est-à-dire que nous n'allons pas par hasard, je l'ai trop fait moi, devons prier, réfléchir à ce que nous faisons, mais surtout nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Je vais vous donner simplement un exemple qui me vient à l'instant. À l'époque où je travaillais dans un hypermarché à Pontardier, j'étais poissonnier. C'était un samedi après-midi, et j'ai trop fait l'erreur dans le passé de prier pour que j'aime témoigner de ce qui m'est arrivé dans ma vie, où Jésus est venu me chercher de ce salut gratuit. Et alors, dans le temps, souvent, je priais, et puis je me mettais comme un chasseur, en chasse du gibier, où il est, celui à qui je vais témoigner. Et puis là, je peux vous assurer que je tombais à côté. C'était ou pas la bonne personne, ou pas le bon moment, et voilà. Par contre, le jour où j'ai prié, puis en travaillant, le patron ne me payait pas pour témoigner. Mais là, j'ai vécu ce jour-là, mais il y a eu d'autres occasions aussi, une circonstance assez exceptionnelle. J'avais prié, puis je suis parti travailler. Mais quand on prie, il faut s'attendre à une réponse, sinon ce n'est pas la peine. C'était un samedi après-midi, il y a le magasin, il y avait vraiment du monde. À la poissonnerie, on avait du monde, ça, il y avait la queue, et puis d'un coup, il y avait du monde dans le magasin, mais là, c'était le calme. Une dame arrive, puis alors, je ne peux jamais vous dire comment ça commence, mais c'est parti d'un coup. Pendant 10 minutes, j'ai pu parler avec cette femme. Le magasin avait vraiment du monde. Certains le connaissent. Et j'ai pu lui témoigner à cette femme. Et puis après, ben, quand elle a été partie, les gens sont revenus. Ils passaient autour, mais on aurait dit que là, il y avait un espace tranquille. Donc je crois que si on commence à être témoin en commençant par prier, à s'attendre à ce que Dieu nous montre quoi faire. Pour moi, c'est la facilité de contact. Pour d'autres, ça sera un sourire. Pour d'autres, ça sera la musique. Pour d'autres, ça sera une parole d'encouragement. Peu importe. Mais on peut être témoin de tellement de manières différentes. Nous faisons des disciples en parlant, en proclamant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Quand quelqu'un devient un disciple de Jésus, ce n'est pas la fin de l'histoire. Le nouveau disciple est quelqu'un qui doit être enseigné. Nous trouvons ici la deuxième partie de la mission universelle de Jésus, la formation. C'est dans le chapitre 20, dans le verset 20, pardon. Il dit « Enseignez-leur ». Jésus s'attend à ce que les nouveaux disciples soient formés, qu'ils ne restent pas des nouveaux-nés dans la foi, mais qu'ils grandissent, qu'ils apprennent à faire ce que Jésus a commandé. Et le plus important peut-être, c'est qu'ils fassent eux-mêmes des disciples. Les disciples forment d'autres disciples pour qu'ils puissent faire aussi, enseigner aussi d'autres disciples. J'ai un exemple qui m'est venu quand j'écrivais ça. Ne devenons pas une génération de mules ou de mulets. Vous savez, la mule ou le mulet, c'est un animal extraordinaire. Il sait transpirer, travailler, mais il ne sait pas se reproduire. Ça. Il y a eu quelques exceptions, mais rares, exceptionnelles. D'un croisement d'un âne et d'une jument, ou le contraire, d'un cheval et d'une ânesse, ça travaille bien, ça porte des provisions, ça laboure des champs, ça tire des charrettes, ça transporte des gens. Mais les mules, elles sont pratiquement toujours stériles. Donc en tant que disciples, essayons de ne pas être comme ces mules. Vous savez, nos églises sont remplies, je ne dis pas, je suis aussi concerné par ce que j'écris. Hein. L'église, elle est remplie de ceux qui savent travailler, c'est bien, il faut le dire. Enseigner à l'école du dimanche, c'est nécessaire. Ils servent les autres, c'est aussi nécessaire. Faire des visites, c'est bien. On fait beaucoup de choses. Mais il y a souvent un problème. On ne sait pas se reproduire. On ne sait pas comment faire des disciples. Comment les enseigner pour qu'ils puissent à leur tour faire enseigner d'autres disciples. Est-ce que nous sommes comme ça à Mouchard? J'ai peut-être exagéré un peu le trait. Moi, je me dis, il y a toujours le danger que nous finissions comme ça. Si nous laissons tomber l'évangélisation pour faire de nouveaux disciples, si nous laissons tomber la formation de ces nouveaux disciples, il est tout à fait probable que nous soyons la dernière génération de chrétiens ici à Mouchard. Mais ce n'est pas si morne et désastreux que ça. Je me le dis à moi aussi, cela pour nous encourager à continuer. Il dit aussi à garder tout ce que je vous ai prescrit. Si on veut enseigner de nouveaux disciples, qu'est-ce que nous allons leur enseigner? Il faut peut-être ajouter une chose à notre définition d'un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend en écoutant et en agissant normalement en écoutant ce qu'il suit, celui qu'il suit, pardon, Jésus, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la parole, et en faisant ce qu'il lui est demandé. Selon Jésus, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, je viens de le lire, en faire déjà seulement ce que Jésus nous commande. Ben, je peux vous garantir que je n'y suis pas encore arrivé. Et puis ça peut me prendre toute ma vie et je crois que je n'y arriverai pas complètement. Mais j'essaye, même avec mes imperfections. Arrête de rigoler. Mais les Écritures elles-mêmes déclarent toute Écriture, dans la parole il est écrit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Notre livre de formation, c'est la Bible. On peut lire d'autres choses, mais c'est le maître étalon, la référence, le code de la route du ciel. Mais la connaissance de la Bible, elle n'est pas suffisante à elle toute seule. Ce que nous connaissons, eh bien, nous devons le vivre. Sinon, ça ne sert à rien, et l'observer. C'est là que se trouve la marque d'un disciple. Il observe ce que Jésus a prescrit, selon des versets bien connus. Jacques dit, mettez en parole, ça j'ai toujours aimé ce verset, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé, s'en va et oublie quel il était. C'est Jacques 1, 22, 24, si vous voulez la référence. C'est une image humoristique, mais qui nous montre l'importance de l'action après sa lecture, après la lecture de la parole. Enfin, la mission universelle que Jésus donne à son Église est importante, fondement de la mission de l'Église. Si nous arrivons à dire qu'est-ce que nous allons faire maintenant, nous trouvons la réponse ici dans ces versets. L'évangélisation et la formation. Tout ce que nous faisons dans l'Église doit servir pour accomplir ces deux buts. Il y a tellement de manières. Moi, j'ai la facilité de contact, mais il ne faudrait pas me mettre à la louange, tout le monde se sauve. Vous voyez? Parce que, ben voilà. Et puis d'autres ont d'autres qualités. On a tous des pépites, des dons que Dieu nous a donnés tous. Si on ne les connaît pas, prions, mais il va nous les faire découvrir. Voilà. Mais c'est à travers ça que le Seigneur va nous utiliser. Ça peut paraître une mission qui peut nous angoisser un petit peu, mais c'est le travail aussi de toute une vie. Mais on demande, Jésus nous demande que nous y consacrions activement et énormément. Être disciple n'est pas quelque chose qu'on fait un jour par semaine à l'église. Le dimanche, c'est un lieu, l'église, le dimanche, c'est un lieu de formation. Mais le lieu de travail, d'évangélisation, c'est le monde. Le monde qui nous hait parce qu'il a haï Jésus avant nous. Hein. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous savez, je ne sais plus quel pasteur j'ai entendu, il dit l'église le dimanche, c'est un peu comme un vestiaire d'une équipe sportive. On a plaisir à être ensemble, on est ensemble comme des sportifs, on essaie d'être unis avec nos différences. Il peut y avoir des blessures, on peut, ouais. Mais le terrain, c'est dehors. Voilà. Donc, ayons plaisir à nous retrouver, mais que ça ne se limite pas à ça. Je crois qu'on peut être réconforté parce que Jésus dit au début du passage que nous avons lu, et parce qu'il dit à la fin. Au début, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et à la fin, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez. Et à la fin, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si ça, ce n'est pas une assurance, eh bien, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je terminerai par le pouvoir et la présence. Son pouvoir, ben, quand nous faisons des disciples, nous le faisons avec l'autorité de Jésus qui nous couvre. Jamais tout seul. En tant que celui qui règne dans ce monde, celui qui a tout pouvoir, il nous envoie comme ses ambassadeurs. C'est quand même énorme, on est ambassadeur de Jésus. Quand je parle avec son autorité, pas mon autorité. Je parle avec son autorité, je parle avec ses mots, sa parole. Je ne me proclame pas mes propres idées ou ma propre religion. Je proclame celui qui est mort et qui est ressuscité. Il me vient une autre chose que j'ai vécue il y a près de 40 ans. Beaucoup le savent, je me suis converti en prison. Et j'ai vécu à ma sortie de prison 11 mois par la foi, sans savoir où j'allais dormir le soir, sans adresse, je n'avais pas de revenus, et je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais eu besoin d'avoir recours à des méthodes bizarres. Et un soir, j'avais été invité chez un couple qui avait des enfants, des adolescents. C'était un couple originaire des gens du voyage, mais qui vivait à Chambéry, dans un appartement. Et voilà, ils s'étaient sédentarisés. Et il y avait, parmi les invités, il y avait un jeune qui appartenait pas à leur famille, mais qui était là, et qui avait un violon. Il est arrivé, là, on avait mangé ensemble, il avait ce violon. Et puis à un moment, je sens vraiment qu'il y a quelque chose chez ce jeune qui est vraiment pas normal. Un jeune adolescent, hein, de 14 ou 15 ans exactement, mais pas plus. Et puis je regarde cette personne qui était, hein, vous savez, des gens du voyage, je ne suis quand même pas des gens qui ont peur. Et je lui dis, viens, on pourrait prier pour ce jeune. Donc il m'amène dans la chambre d'un des gamins et on se met à prier pour le jeune. Et puis j'ai vraiment senti quelque chose, qu'il y avait quelque chose, un lien entre ce jeune et ce violon. Il était parti dans la chambre prier avec nous, il avait le coffre du violon qu'il a posé. Et là, vraiment, par l'autorité que Dieu nous donne, j'ai pris autorité. Et il y a eu un hurlement, ce garçon a été délivré, mais il y a eu un hurlement qui est sorti de lui. Moi-même, j'ai regardé, et le frère qui était avec moi, il a eu un mouvement de recul. Pourtant, je vous assure que c'était un gaillard. Hein. Puis après, il m'a dit, mais j'ai eu la trouille de ma vie. Donc, c'est cette autorité que Dieu nous donne. On ne va pas se mettre en avant. Hein. Vous savez, j'en ai pas tiré gloire. Ça m'a même surpris, mais c'est vraiment fort. Ça, c'est le pouvoir que Dieu nous donne. Vous savez, Paul dit en Romains 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La puissance de Dieu, l'Évangile. Je crois en ce message parce que je crois en le message de l'Évangile, parce que je crois en celui qui m'envoie, Jésus. Comme je l'ai dit, un disciple, c'est quelqu'un qui suit une personne, Jésus, puisqu'il a tout pouvoir et toute autorité, j'ai confiance en Jésus quand il m'envoie quelque part. Il sait très bien ce qu'il fait et il me donnera ce qu'il me faut pour accomplir sa volonté, non la mienne. Et il ne va pas me le donner des fois, des mois à l'avance, parce que des fois on s'effraierait, on prendrait peur. Il y a sa présence. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je terminerai là-dessus. Ce sont des paroles qui nous réconfortent pour moi. On n'est pas tout seul. On n'y va pas la fleur au fusil. Quand nous nous rassemblons, il est facile de croire que Dieu est là parmi nous. On l'a chanté tout à l'heure. Mais nous sentons parfois que s'il est là, c'est parce qu'il est venu voir quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on croit parfois, on pense. Et alors, on se sent encore plus seul quand nous partons d'ici. Il ne faut pas penser ça. Vous savez, quand vous appartenez à Jésus, vous lui appartenez. Je terminerai par... En 40 ans, j'ai vécu des choses qui... Je n'ai pas eu un parcours rectiligne après ma conversion. Par ma faute, par des désobéissances, j'ai pris un peu des chemins de traverse, des chemins d'errance. Mais Jésus est vraiment le bon berger. Il n'a jamais permis que je redevienne l'homme que j'avais été. Et il m'a même encouragé. Il m'a même protégé. C'est là, quand il dit « Je suis avec vous tous les jours », il ne nous abandonne jamais. Même si on s'écarte un peu. Par contre, on a l'adversaire qui dit « T'as pas vu ? Ça y est, c'est reparti. Hein. Tu changeras jamais. » Non, Jésus ne nous dit pas ça. Vous savez, le jour où il m'a dit « Allez, reviens. » Avec tellement de douceur, tellement d'amour et d'humour aussi. On ne peut pas dire non. Mais c'est extraordinaire. C'est des paroles qui nous rassurent. Ce n'est pas un vague espoir. Est-il là ou non ? C'est un fait, il est là. Promesse sur laquelle on peut compter. C'est la promesse que Jésus sera avec nous jusqu'à ce que la mission, le travail soit accompli. Après cela, on sera avec lui. On l'a chanté tout à l'heure. Dans sa présence pour toujours. Donc à quoi sert l'Église ? Pour moi, la mission de l'Église, ici et ailleurs, je la résume en deux mots, l'évangélisation et la formation. Quand nous nous réunissons le dimanche matin ou pendant la semaine, nous sortons du monde pour quelques heures, nous trouvons un refuge, un répit, comme je l'ai dit, une image, un vestiaire. Nous louons Dieu, nous chantons, nous prions, nous écoutons l'enseignement de la parole de Dieu. Tous pour être formés, tous pour être préparés à replonger dans le monde. Pour accomplir la mission que Jésus nous a confiée, faire des disciples, nous mettons en pratique ce que nous avons appris et nous partons rassurés et assurés aussi de son pouvoir et de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, vraiment, ce que tu m'as mis à cœur, J'ai longtemps hésité, je me suis dit, j'ai peut-être mal exprimé, mais j'ai essayé de l'exprimer du mieux, de ce que tu m'as mis sur le cœur, Seigneur. Je me suis dit, ça va être dur, mais je sais que je suis aussi concerné. Alors aide-nous, Seigneur, aide-nous à avoir cette confiance illimitée en toi, Père. Tu es vraiment ce bon berger, ce Dieu d'amour, c'est le Dieu de pardon, tu es un Dieu immense, on ne peut pas définir, mais ce que je peux être assuré, tu es là, tu es dans nos vies, dans ma vie. Merci à toi, Père. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Bénis mes frères et sœurs qui sont là. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Et bénis ton Église et dans ta main, Seigneur, dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen.